Bon, Frédéric Worms, vous avez dirigé l'édition critique donc des œuvres de Bergson qui commence ses premières livraisons cette année, ces jours-ci même, on peut dire, avec trois premiers volumes. Tout le monde connaît Bergson, tout le monde ne sait pas ce qu'est une édition critique. Et c'est peut-être là-dessus qu'on voudrait commencer. Pourquoi proposer au public aujourd'hui une édition critique de Bergson? Quelle en est l'intention? Est-ce que il s'agit simplement de remettre Bergson dans son contexte, ce qui supposerait qu'il soit devenu un peu suffisamment étranger à nous pour que cette nécessité se fasse sentir? Est-ce qu'il s'agit au contraire de le conjuguer au présent, de le rendre à une actualité particulière? C'est un petit peu là-dessus qu'on aimerait vous entendre d'abord.
Oui, merci pour ces questions. Je suis très heureux de discuter de l'aspect éditorial également de cette entreprise qui permet de rejoindre les aspects plus largement intellectuels de la pertinence de Bergson aujourd'hui, mais aussi qui ont une consistance propre, ces questions éditoriales justement. Dans le cas de Bergson, édition critique ne veut pas dire établissement du texte. C'est l'un des sens possibles de l'expression édition critique. Il n'y a pas de problème d'édition de texte. Bergson a donner d'emblée un texte définitif, il y a très très peu de variantes. Certains textes ont fait l'objet d'une publication en article, donc il y a quelques variantes. Donc il ne s'agit pas d'une édition au sens de l'établissement d'un texte. Par contre, et c'est là qu'on rejoint déjà le débat intellectuel, il s'agit bien en effet de tenir compte d'une histoire, même d'une double histoire, disons d'un recul dans l'histoire de Bergson lui-même, donc d'établir une sorte enfin, il y a un certain nombre de références nécessaires, historiques, philosophiques, parfois même lexicales, et de noms propres et de concepts qui sont datés désormais, et qu'il faut donner un recul historique. Et puis, donc, il n'y a pas seulement Bergson qui a reculé dans son histoire, mais notre histoire depuis qui s'est approfondie, les lectures de Bergson, la réception critique, un moment qui est celui non plus de la gloire ni de l'oubli, mais d'une sorte d'équilibre entre les deux et donc d'élargissement de la lecture de Bergson, à la fois universitaire et non universitaire. Donc il y a ces deux histoires, rendre compte de Bergson dans son contexte et de notre contexte de la lecture de Bergson aujourd'hui. C'est pourquoi donc l'édition critique consiste essentiellement dans un dossier ajouté au texte et qui comporte un apparat de notes et dans ces notes les quelques variantes, mais aussi un dossier de lecture, un certain nombre d'outils dont on pourra reparler, les index, les tables analytiques, etc. Donc il y a à la fois une volonté, ce double effet d'histoire qui comprend en lui un moment de lecture académique nécessaire. Qui met Bergson à la hauteur des plus grands classiques. Donc édition critique, ça veut aussi dire moment de l'entrée de Bergson parmi les classiques à part entière.
D'accord. Vous avez le sentiment que ce n'était pas déjà le cas?
Ça n'était pas tant le cas que ça. Il y a une sorte, Bergson a été d'emblée classique, d'emblée reçu comme un grand philosophe. Peggy a tout de suite dit c'est notre Descartes, notre Kant. Enfin bon, donc il a été tout de suite un très grand classique, mais classique au sens d'une œuvre qui a sa rigueur propre, qui a son originalité, sa rigueur, qui fait date, qui implique une histoire, etc. Je crois qu'il était encore en attente de ce type de lecture. Il était encore presque trop polémique, il est resté trop brûlant dans la gloire et dans l'oubli pour devenir véritablement un classique.
Qu'est-ce qui, dans l'évolution créatrice, rencontre aujourd'hui notre souci, notre préoccupation?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a sur son objet premier, qui est donc l'évolution et la vie, hein. Évidemment, le titre est toujours aujourd'hui, peut-être plus que jamais, un défi. Comme il y a une formule de Gouillet qui explique que le titre est évidemment un défi aux évolutionnistes d'un côté, puisqu'on met la création, et aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui les créationnistes, puisque cette création, n'est pas du tout le fait d'un sujet transcendant à la vie. Au contraire, être immanente à l'évolution. Donc au fond, là, Bergson a supposé qu'il y ait un retour du créationnisme. Il y a une actualité critique de Bergson, comme je l'ai dit récemment aussi, qui permet de critiquer le créationnisme, pas seulement au nom de la théorie de la vie, mais au nom du concept de création. C'est-à-dire que ce que le créationnisme ne permet pas de penser, c'est la création. Parce que il pense le créationnisme, c'est la théorie du dessein intelligent, c'est ceux qui pensent que la seule alternative à une évolution liée au hasard et à la nécessité, c'est quelqu'un qui aurait planifié la création à l'avance. Et Bergson montre que ça, c'est tout aussi contradictoire avec l'idée de création, qui est celle de nouveauté, de surgissement d'imprévu dans l'expérience même, et qui est c'est cette création-là que Bergson fait voir dans le vivant en général. Et je crois vraiment que, autant l'idée qu'il y ait un principe dans la vie, qu'il soit temporel, conscient, psychologique, avec cette image risquée de l'élan vital, autant ça c'est peut-être effectivement périmé, autant l'idée d'une émergence, hein, et c'est aujourd'hui le concept central en biologie, de nouveauté dans la vie elle-même, l'idée que la vie n'est pas seulement un fait essentiel, immuable, mais une histoire. La vie est une histoire, non seulement a une histoire, mais est une histoire. Elle n'est que transformation. Oui, cette idée-là, Bergson est un des rares à en donner les conditions philosophiques. Et du coup, il s'inscrit évidemment dans un processus de temporalisation de notre expérience qui, Foucault l'a montré, elle est propre du 19e et du 20e siècle. Mais une temporalisation qui n'est pas forcément une sorte de pure et simple dissolution, qui est vraiment une expérience aussi positive, métaphysique. Donc oui, il y a énormément, dans l'évolution créatrice, il y a de multiples actualités, et comme tous les grands livres, il a les actualités qu'on lui donne, et puis il y a celles qu'il crée lui-même. Donc il y a des actualités dans le débat sur le vivant, dans la théorie de la connaissance, et en métaphysique, d'une manière peut-être plus complexe à saisir, mais tout aussi importante. Je pense qu'on voit maintenant apparaître Bergson comme, je vais le dire brutalement, la seule alternative possible à Heidegger. La seule alternative possible à une métaphysique fondée sur l'expérience du néant, de la négativité, ou de l'être d'ailleurs, c'est celle qui voit notre expérience partagée entre, non pas l'être et le néant, mais la création, moi ce que j'appelle la création et la destruction. Hein, une polarité interne à la vie et non pas au-delà de laquelle il n'y a plus rien, c'est-à-dire au fond une alternative au nihilisme. Et ça, c'est vrai aussi qu'on ne le dit pas assez souvent. Je dirais que la seule alternative au nihilisme, qui est quand même un des sous-bassements de notre expérience aujourd'hui, c'est celle qui consiste à dire la vie, il n'y a rien au-delà de la vie, mais dans la vie, il y a une polarité fondamentale. Évolution et création, nouveauté,
pas de néant, mais de la destruction.
Voilà. Exactement. Et ça, c'est fondamental.
Oui, bien sûr.
Pas de néant en soi, mais des choses précaires. La vie elle-même n'est pas une essence abstraite. La vie est un événement qui a une histoire et qui peut cesser. Aujourd'hui, on découvre cette précarisation de la vie en général, c'est de la vie sur notre planète. Et ça, c'est vrai que c'est plus grave que le néant.
Ah, bien sûr.
Beaucoup plus grave.